j'ai pris le texte du jour, à savoir la circoncision de Jésus et sa venue au temple. On le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, des versets 20 à 38. Luc 2, 20 à 38. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Qui n'est pas encore, hein, je le sais.
Non.
Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, ce que je cherche à vous dire, sachez-le maintenant, presque on pourrait louper la prédication, c'est que la nativité, ça concerne absolument tout le monde. S'il y a une chose à retenir de mon message, c'est ça. Personne ici ne peut dire j'ai rien à voir avec Jésus, enfin, je pense pas, je suis pas assez digne, je suis pas assez bien pour lui. Non. Je sais que tout le monde le sait, mais des fois, des piqûres de rappel, ça fait du bien. Alors, j'aime bien lire la Bible avec un regard un petit peu décalé. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un film de ces quelques mois qui se sont passés depuis que l'ange est venu dire à Élisabeth qu'elle allait avoir un bébé. Et que l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait avoir un bébé. Jusqu'à ce jour de la circoncision. Hein. Donc ça fait 9 mois plus 8 jours, grosso modo. Voilà, si on voulait en faire un film, qui y aurait dans le casting? On prend tous les gens qui sont venus. Vous savez ce que c'est un casting? Dans un film, c'est la liste des gens et la liste des acteurs. Donc, qui pourrait y avoir dans ce casting? Et tous les gens qui ont rencontré Jésus pendant toute cette période, est-ce que ce sont des gens qui nous ressemblent? Et je me suis même dit, mais est-ce qu'on pourrait trouver ici, dans la paroisse de Thiers-les-Sarrets, des gens pour remplir ce casting? Alors on va faire l'inventaire. Dans ce récit, on trouve différentes catégories de personnes et on va les inventer. La première que j'ai repérée, la première catégorie de personnes, c'est des gens honnêtes qui se retrouvent dans une situation plus que délicate, très inattendue par l'opération du Saint-Esprit. Et à cause de cette opération du Saint-Esprit, la vie devient une aventure pour eux, à cause de Jésus. Évidemment, je veux parler de Joseph et Marie. Vous imaginez la jeune fille, la situation de cette jeune fille de bonne famille et la situation de Joseph, qui fait aussi partie de la bonne famille. Elle nous a dit qu'ils sont juifs pratiquants, on le voit là, quand ils vont au temple. Ce sont des familles pieuses, des familles qui respectent la loi de Moïse. Alors pour Joseph, c'est vite vu. Il se soumet à la parole de Dieu. Il envisage de répudier Marie quand il apprend qu'elle est enceinte, parce qu'il sait bien lui qu'il n'y est pour rien. Un ange vient visiter la nuit, pof, 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 l'ange lui dit, tu prendras cette femme, c'est le fils de Dieu, il se réveille, l'affaire est terminée, il a cru, il agit en fonction. Pour Marie, c'est tout pareil, hein. C'est du pareil eux-mêmes, elle accepte tout de suite. On ne la voit pas dire à l'ange, tout bien réfléchi, non, c'est pas pour moi, on va chercher quelqu'un d'autre. Je sais pas, la vieille Naomi, là, elle a 40 ans, elle veut absolument un enfant, va chez elle, moi je t'ai rien demandé. On ne nous parle pas de ses peurs, on ne nous parle pas de sa révolte peut-être, enfin, je sais pas, elle se trouve quand même dans une situation d'une jeune femme pieuse, jeune, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'elle aurait été adolescente. Une jeune femme pieuse qui se retrouve enceinte par l'opération du Saint-Esprit. À l'époque, on ne savait pas encore que ça existait, l'opération du Saint-Esprit. Enfin, si, il y avait eu des antécédents dans le Premier Testament. Non, ce que les évangélistes ont retenu, c'est son interrogation. Explique-moi un petit peu comment ça a marché, là, parce que d'après ce que j'ai compris, si je ne partage pas le lit de Joseph, ça ne va pas le faire. Juste, elle pose une question. Et elle se contente de la réponse de l'ange. Il lui parle d'une question de Saint-Esprit qui viendra sur elle. Prof, elle accepte. Vous vous rendez compte de la foi de cette femme? Est-ce que moi j'ai cette foi-là? Est-ce que toi tu as cette foi-là? Bon. Elle aurait pu dire à Gabriel, mais arrête tes sorts, d'abord d'où tu sors là? Moi je ne te connais pas. Tu vas dire des trucs comme ça? Non. Elle a répondu, je suis la servante du Seigneur. Et en répondant, je suis la servante du Seigneur, elle ne fait rien d'autre que dire ce que Israël a dit à Dieu au Sinaï. Quand Dieu a donné la loi au travers de Moïse, Israël a répondu, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Ça veut dire que Marie, c'est une vraie juive. C'est une vraie fille d'Israël. Elle porte en elle, avant même de porter Jésus, elle porte en elle l'histoire d'Israël, l'espérance d'Israël. Et c'est tout ce que l'histoire a reconnu, l'histoire avec un grand H, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit lui tombe dessus, ça bouleverse complètement sa vie, et elle se soumet à la volonté de Dieu, sans rechigner. Et encore, ça c'était tout au début, il y a 9 mois et 8 jours. Parce que là aujourd'hui, elle va au temple, elle va accomplir son devoir de bonne mère juive, à savoir circoncire son fils, donner à Dieu son fils premier-né, et puis offrir des sacrifices pour sa pureté, sa purification, à la fin de la grossesse. C'est pour ça qu'elle donne des tourterelles. Donc elle va simplement, voilà, elle a déjà été bouleversée 9 mois, elle commence sa vie avec ce bébé, elle est de nouveau bouleversée parce qu'elle ne peut pas accoucher dans un lieu sécure, elle se retrouve dans une bergerie, elle va au temple, vous voyez l'aventure un petit peu qu'elle vit, notre Marie,
elle va au temple, et là elle tombe sur un vieillard qui lui dit « Un glaive te transpercera le cœur. » Waouh ! Je suis pas sûre que ça faisait partie du projet de naissance de ce jeune couple-là. Ben, c'est pourtant ce qui s'est passé. Elle a vu son fils rejeté, humilié, un fils qui ne pouvait pas aller certains, parfois à des endroits parce qu'on voulait lui faire la peau, et pour couronner le tout, on l'a vu cloué sur le bois. Marie a eu sa vie bouleversée par l'action de Dieu. Elle a vécu ce qu'il y a sans doute de pire pour une mère. Et je sais qu'ici, il y en a qui savent ce que c'est. De voir son enfant mourir. Elle a été témoin de la mort de son enfant. Et pourtant, elle a dit d'elle-même que toutes les générations la diront bienheureuse. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on continue de dire que Marie est bienheureuse, malgré cette aventure. Alors, ici, qui est prêt pour ce casting? Qui est prêt à dire oui dès que Dieu ordonne? Qui est prêt à rentrer dans l'aventure de la vie avec Dieu? Qui est prêt à se laisser faire? On ne fait pas par le Saint-Esprit. Qui? Ça, c'était la première catégorie de personnes. Oui, il y en a qui disent oui. Dans ce récit, j'avais jamais réalisé avant, on croise des simples humains et des anges en même temps qui communiquent. Des anges qui parlent. On se retrouve avec la communion des saints. La terre et le ciel en même temps. La terre et le ciel en interaction pour faire advenir le royaume de Dieu. La bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, elle est annoncée par l'ange au berger. Et cette même bonne nouvelle, elle est reprise par le berger, dont il est dit qu'ils vont aller raconter tout ça à Bethléem. Le même message relayé par des êtres surnaturels et des bergers, on ne peut pas plus humains. Voilà, c'est la communion des saints. Et puis, on voit aussi, avec tous ces simples humains, que beaucoup ont témoigné de ce qu'ils ont découvert. Presque tous. Ils n'ont pas pu se taire. Les bergers, ils sont partis avec Bethléem. Anne, la prophétesse, on nous dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui avaient la libération de Jérusalem. Même les mages ont témoigné. Alors je parle des mages, on n'en parle pas encore. Mais ils sont en route depuis très longtemps. Pour traverser tout ce qu'ils ont eu à traverser, c'était les premiers, hein. Les mages, ils ont témoigné à qui À Hérode. Alors, peut-être qu'ils auraient mieux fait de ne pas le faire, mais les mages, ils ont aussi témoigné de l'arrivée du roi des Juifs. Alors, pour notre casting, j'ai besoin d'une deuxième catégorie de personnes, des hommes et des femmes, sensibles aux choses spirituelles, qui peuvent percevoir Dieu qui parle au travers des anges, par exemple. Et puis des hommes et des femmes qui ont envie de témoigner de ce qu'ils ont reçu. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Oui, je sais qu'il y en a. Troisième catégorie de personnes. Luc nous parle de gens de foi qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu et d'autres qui n'avaient strictement rien demandé. Rien. Ceux qui n'avaient rien demandé, ben c'était Marie et Joseph. C'était Élisabeth et Zacharie, les bergers, les mages par exemple. Alors on imagine bien les bergers sur leur colline. Hein. Ils étaient peut-être en train d'attendre une chose, oui, c'est que le jour se lève pour pouvoir faire un petit somme. C'est quand on garde des moutons, il faut faire attention à la nuit, parce que les bêtes sauvages, elles attaquent la nuit, pas forcément la journée. Mais ils s'attendaient certainement pas à un événement surnaturel. Ils ne s'attendaient certainement pas à une grande lumière. On peut comprendre qu'ils aient eu peur. Moi, je me souviens très bien d'une fois où j'ai vu une énorme lumière, là, comme ça, je revenais du test, Il y avait une lumière dans la nuit. Et j'ai peur. J'ai même pensé que c'était des ovnis, figurez-vous. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était une discothèque qui... Mais avant que j'imagine que c'était une discothèque, j'ai eu la trouille de ma vie, je vous assure. Vous imaginez les bergers, ils sont en train de garder leurs moutons, et paf, d'un seul coup, ils entendent une armée d'anges qui chantent. Est-ce qu'ils les ont vus? On ne sait pas. Mais ils ont dû avoir la trouille de leur vie. Et pourtant, eux aussi, ils ont été sensibles aux choses de Dieu. Ils ne sont pas dit, tiens, on a fumé la moquette. Non. Ils ont entendu. Ils ont écouté, ils ont cru et ils ont agi en conséquence. Alors, si comment c'est possible ça? Quand Dieu parle comme ça, est-ce que c'est parce que quand Dieu se manifeste, il y a comme une évidence? Vous avez déjà vécu ça, une présence qui a du poids. Une présence qui a du poids, qui rend perceptible la réalité de Dieu. Alors là, je sais que j'en ai déjà parlé ici, mais tout le monde n'a pas entendu. J'ai envie de parler de cette femme qu'on connaît, qui suit les poses de psaume avec Mathias. Une dame lambda, qui a été visitée par un pasteur lambda, au cours d'une visite lambda après un enterrement. Et une fois qu'il est parti, elle a vu une grande lumière dans son couloir. Et elle a compris que c'était la présence de Dieu. Et elle disait à Dieu, mais fiche-moi la paix. Mais moi je t'ai rien demandé, mais va voir ailleurs. Mais moi je t'ai rien demandé. Et elle savait que c'était la présence de Dieu. Ben, les bergers, Marie, Joseph, peut-être qu'ils auraient pu dire la même chose. Mais tous se sont laissés faire par le Saint-Esprit, et aujourd'hui nous on en est encore au bénéfice. Alors il y a ceux qui n'ont rien demandé, et puis il y a d'autres au contraire qui connaissaient bien Dieu, qui connaissaient bien la Torah, la loi. Ils attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu, les prophéties données à Israël, les prophéties données à eux-mêmes. Bien sûr, je parle de Siméon. Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Et il lui avait été révélé en plus qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. On peut aussi associer Anne, la prophétesse, qui elle aussi attendait. C'est une chose d'attendre. C'est une chose de reconnaître que c'est le moment. Et tous les deux l'ont reconnu, tous les deux ont eu cette sensibilité. Ils ont reconnu en un tout petit nourrisson, vous imaginez un bébé de 8 jours? Allez, ça tient un peu plus que dans la main. Un bébé de 8 jours. Et ils ont reconnu que c'était la consolation d'Israël. Que c'était le Christ du Seigneur. Alors, je sais qu'ici, on n'aura pas de mal à trouver du monde pour le casting. Des gens qui attendent. Des gens qui jeûnent. Des gens qui prient. Des gens qui lisent la Bible. Des gens qui loupent aucun culte, aucune réunion. Et tout ça dans l'espérance de la résurrection. Et dans l'espérance de la résurrection et de la venue de Jésus en gloire. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi prier maintenant. Pour tous ceux qui sont fidèles dans cette Église, soient renouvelés dans leur espérance et qu'ils soient sensibles au Saint-Esprit quand il agit dans leur vie. Je vois encore deux catégories de personnes. Ceux qui cherchaient autre chose et qui ont trouvé Dieu. Et là, je parle des mages. Les mages, c'était des astrologues, des chercheurs de savoir, des chercheurs de nouveautés. Ce n'étaient pas des chercheurs de Dieu, les astrologues. En tout cas, pas officiellement, c'était des savants. Ils étaient curieux. Et cette curiosité scientifique les a amenés à entendre parler de la prophétie de Balaam. Vous savez, cette prophétie. Alors, sans doute, il y avait des savants exilés à Babylone. La prophétie d'Abraham, de Balaam, elle dit: je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. Un astre apparaîtra parmi les descendants de Jacob. Un roi souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Alors, leur sujet de recherche, ce n'était pas la religion, ce n'était pas la spiritualité, c'était l'astrologie, l'astronomie, les astres.
L'astrologie. Voilà. Eh bien, eux aussi, ils ont été sensibles aux choses de l'esprit. Ils ont vu un astre et ils l'ont interprété comme étant celui du roi des Juifs annoncé par Balaam. Et ils ont cru. Ils ont cru. Et là, ils n'ont pas eu de révélation directe. Ils n'ont pas eu un ange qui est venu leur dire « ça, c'est l'étoile du roi des Juifs ». Et leur foi les a mis en route. Et on sait qu'ils ont cru parce qu'ils sont partis avec des cadeaux. Ils ne sont pas partis seulement avec leurs lunettes. Ils sont partis avec des cadeaux de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Des cadeaux qu'on adresse à un roi. Ils ont bien cru, les mages. Ils ne sont pas partis comme ça à l'improviste. Les mages, ils cherchaient à enrichir leur savoir. Et en fait, ils ont rencontré leur sauveur. Eux aussi. Et ici, il y en a plusieurs qui ont témoigné de leur recherche spirituelle. Ils cherchaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient, mais ils cherchaient. Partout. Ils cherchaient dans la religion orientale, dans le Reiki, dans le développement personnel, la richesse, le pouvoir. Ils cherchaient ce qui peut élever l'âme. Ils cherchaient la méditation transcendantale, les expériences un petit peu borderline, comme ça. Parce qu'ils cherchaient. Ils voulaient donner du sens à leur vie. Et puis certains se sont trouvés nez à nez avec Jésus. Oh, ils n'avaient pas prévu ça. Et ça a bousculé leur vie. Et en méditant, je me suis dit, bah, peut-être quand même qu'aujourd'hui, ici et maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'il cherche, il va le trouver dans la personne de Jésus. Que c'est ce tout petit bonhomme né dans une mangeoire, circoncis à l'âge de 8 jours, ce petit juif, c'est seulement lui qui va pouvoir te donner ce dont tu as besoin. Si toi, tu ne le cherches pas, lui, en tout cas, il te cherche. Il n'y a que lui qui va pouvoir te réconcilier avec toi, avec les autres, avec Dieu. Alors, dans notre casting, là, qui est-ce qui rentre? Ceux qui cherchent, qui ne savent pas qu'ils cherchent, mais qui ont trouvé quand même, ou qui ont envie de trouver. Et puis, pour finir, les autres. Parce que Luc et Matthieu nous parlent de tant d'autres. Si tu ne t'es pas retrouvé dans tous ces personnages que je viens de citer, ben, il y en a d'autres. Parce que c'est vraiment là le cœur de mon message. La venue de Jésus concerne absolument tout le monde. Tout le monde. Rencontrer Jésus, ça change la vie, ça je l'ai prêché récemment. Ça crée un avant et ça crée un après. Et nous sommes absolument tous concernés. Il n'y en a pas un seul qui soit laissé de côté. Pas un seul. Relisons rapidement ce texte dans notre tête. On va pas le relire. Il y a des jeunes, il y a des vieux. La jeune Marie, dont il est dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur et cherchait un sens à tout ça. On peut comprendre qu'elle cherchait un sens. Donc il y avait la jeune Marie, il y avait la vieille Anne, la prophétesse. Elle a tout compris dès qu'elle a vu Jésus. Il devait y avoir des jeunes parmi les bergers. Hein, il me semble qu'il y avait beaucoup d'enfants qui allaient garder les troupeaux. Puis il y avait le vieux Siméon, il y avait la vieille Élisabeth, qui a été visitée par le Saint-Esprit quand Jésus est rentré dans sa maison dans le ventre de sa mère. Dès le début de l'histoire de Jésus, il y a aussi des gens simples et des gens lettrés. Les gens simples, c'est les bergers. Les gens lettrés, c'est les mages. Et Dieu s'est adapté à chacun. Les gens simples, ben, ils avaient besoin d'un décodeur. Alors ils ont eu l'ange qui est venu leur parler. Les gens lettrés, ils n'en ont pas eu besoin. Ils n'en ont pas eu. Dieu s'adapte à chacun. Puis il y avait des gens pauvres. Il y avait des gens pauvres. On parle des bergers, mais il y avait peut-être d'autres encore pauvres. Puis il y avait un homme de pouvoir. Ah, un homme de pouvoir, Hérode. Le roi Hérode. Le roi des Juifs à l'époque, qui devait son titre à des magouilles avec les Romains. Alors lui aussi, il a été bousculé par la révélation de Jésus. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de place. Parce que dans son cœur, il y avait une seule recherche, c'était le pouvoir. Il était obsédé par le pouvoir, cet homme. C'était sans doute un homme fou. Enfin, n'empêche qu'il a fait tuer des centaines d'enfants pour éliminer le roi des Juifs. Et c'est un autre homme de pouvoir
qui a donné à Jésus son titre de roi des Juifs. Il a voulu se moquer de lui, Pilate. Hein, pour se moquer de Jésus, il a dit « Ah, faites mettre celui-ci le roi des Juifs. Ouais. » Ben, Pilate, il a dit la vérité. Hein. Dieu est vraiment grand. Il utilise tout. Alors, ce que je veux dire pour terminer, c'est que la nativité, ce n'est pas un joli tableau figé il y a plus de 2000 ans qui a inspiré des artistes, des créateurs de chansons de Provence. C'est pas ça, la nativité. C'est pas une crèche qui est sur mon meuble, là, avec plein de monde. Non, c'est pas ça. La nativité, c'est Jésus, ton sauveur, qui vient à toi, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu te sentes concerné ou pas. La nativité, c'est Jésus qui s'est révélé par le Saint-Esprit. La nativité, c'est aujourd'hui, 31 décembre 2023, pour toi. Amen.